They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母亲咱们家，
正忙着忙着忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Clément Daté. Depuis quelques mois, le thème de la lutte des classes revient dans l'actualité française. D'ailleurs, le dernier baromètre des événements économiques pour France Info et le Parisien d'Odoxa MCI, dans ce baromètre donc, 2/3 des Français considèrent qu'elle existe toujours bel et bien, cette lutte des classes. Marx aurait donc toujours raison. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes, écrivait-il dans son manifeste du Parti communiste en 1848. Cette lutte n'est pas une réalité que pour la France, elle l'est peut-être encore plus pour les pays en voie de développement ou émergents, notamment du côté des BRICS, notamment, ou à la faveur de la croissance, eh bien, se sont constituées ces fameuses nouvelles classes moyennes, mais qui aujourd'hui, en plein ralentissement économique, exprime une certaine colère, une certaine exaspération. C'est notamment le cas dans un pays en proie à une crise politique, mais aussi une crise sociale dont on va parler ce matin, le Brésil.
Le Brésil ne supporte plus ceci. Sortez-la. Regardez tout ce que l'on impose au peuple brésilien. Nous sommes outrés. Nous avons besoin de dignité. Nous avons besoin de personnes qui soient responsables pour que le pays sorte de la situation dans laquelle il est en ce moment.
Je travaillais dans un hôpital public. Tout le monde a été licencié. Tous les sous-traitants ont mis la clé sous la porte. Au total, 575 personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans travail et sans indemnité.
Dès qu'il y a un poste qui se libère, tout le monde se précipite. C'est très difficile pour nous et c'est comme ça dans tout le pays.
Hilda, mon employée de maison, ne vient plus que 2 fois par semaine. Avant, c'était 4. Je voudrais bien qu'elle vienne tous les jours, mais je n'ai plus assez d'argent. Je suis pour la destitution de Dilma.
Le peuple veut un meilleur gouvernement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Toutes les classes sociales souffrent dans ce pays.
Dona Dilma!
Dona Dilma!
O que é que é?
Larga o governo, solta o osso, por favor.
Eh oui, toutes les classes sociales souffrent du côté du Brésil. De l'euphorie de la période Lula, la société brésilienne est passée à une période de défiance, voire de méfiance ouverte. On l'entendait au Brésil, la crise a mis un coup d'arrêt à la mobilité sociale permise par les politiques menées par le Parti des Travailleurs. En effet, les familles pauvres qui, cette dernière décennie, avaient pu accéder au grand marché de la consommation, la fameuse classe C, retombent progressivement dans la précarité et viennent grossir les rangs des mécontents qui, depuis des mois, déstabilisent une Dilma Rousseff toujours menacée de destitution et qui pourrait être écartée du pouvoir dans les prochaines heures, malgré le retour de leur ancien héros Lula, revenu en politique en tant que ministre d'État, ce qui lui permet d'échapper à la justice qui s'en rapprochait dangereusement pour son rôle dans la fameuse affaire Petrobras. On va parler ce matin de lutte des classes dans cette semaine consacrée aux nouvelles batailles identitaires, notamment dans ce Brésil en pleine crise politique et économique. Où en est-on de la lutte des classes au Brésil? Comment le miracle économique des années 2000 a-t-il modifié le paysage social? Et comment aujourd'hui le ralentissement fait-il rejaillir les tensions sociales et peut-être même raciales également? Avec la crise, voit-on rejaillir de nouvelles consciences, de nouvelles identités de classe? Et de quoi sont faites justement ces identités? Comment le positionnement politique des différentes classes sociales a-t-il évolué dans le temps? Les anciens partisans de Lula sont-ils devenus les opposants de Dilma d'aujourd'hui? On ira également dans cette émission du côté des Philippines, qui viennent d'élire également un nouveau président, la personne de Rodrigo Duterte. Le Brésil et les Philippines ont au moins un point commun, justement, cette nouvelle classe moyenne. Comment est-ce qu'elle a voté lors de cette élection? On en parlera tout à l'heure avec William Guéresch. C'est aussi le cas de la Tunisie, où les mouvements de jeunes diplômés chômeurs ne cessent de croître pour devenir un des visages de la nouvelle Tunisie, d'après Ben Ali, le doyen de la faculté de sciences juridiques de la ville de Djendouba, nous expliquera tout ça en fin d'émission. Pour évoquer ce Brésil avec nous ce matin, un Brésilien justement, sociologue. Bonjour Glaubert Cesarino.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le disais donc, sociologue, vous êtes également doctorant à l'HESS et puis vous administrez ce site d'information qui s'appelle Autre Brésil, qui est en fait une association qui vise à faire découvrir cette société brésilienne, notamment en proposant justement un décryptage de l'actualité de l'information sur ce site internet. Alors d'abord l'actualité, Glaubert Cesarino, Dilma Rousseff est sur le point d'être écartée du pouvoir. Les débats là sont encore en cours du côté du Sénat, ça fait plus d'une quinzaine d'heures maintenant. Rappelons peut-être pour les auditeurs qu'elle fait l'objet d'une procédure de destitution pour maquillage présumé des comptes publics. Les Brésiliens sont dans un véritable feuilleton politique qui rebondit de jour en jour, d'heure en heure. Depuis le début de cette affaire, Dilma dénonce un coup d'État institutionnel, sans armes ni baïonnettes, a-t-elle dit. C'est un coup d'État institutionnel, de votre point de vue, Glauber Cesarino, ou c'est une procédure normale, logique, méritée pour un responsable politique qui a manqué à son devoir?
Bon, la réponse est toujours assez complexe, mais moi je suis sûr et certain, et je sais pas que moi, la plupart d'analystes aujourd'hui qui regardent cette mouvance politique, d'accord, c'est un coup d'État qui est en train de se mettre en place. Cependant, c'est un coup d'État d'une façon assez particulière, donc parce que dès qu'on parle des coups d'État, surtout pour les Français, on pense aux années 60, 70, les chars dans la rue, l'armée qui descend, qui prend le pouvoir par la force de baïonnettes, comme vous l'avez souligné. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait une réarticulation au sein d'un côté du champ juridique, donc des juges des premières instances en connexion avec des juges du Suprême Tribunal fédéral qui essayent aussi, donc d'écarter la présidente élue en 2014.
Alors comment vous expliquez que si c'est un coup d'État institutionnel, la majorité des Brésiliens souhaitent la destitution de Dilma Rousseff? Je sais plus quels sont les sondages exacts, mais les derniers donnaient à peu près 70% des Brésiliens qui étaient en faveur de la destitution.
Il faut regarder bien ces sondages d'un point de vue, parce que quand on décortique ces sondages par exemple, on va voir que parmi les électorats les plus aisés, donc ceux qui reçoivent plus de 5 à 10 salaires minimum brésiliens, donc sont vraiment dans la tranche de 10% les plus riches du pays, ils sont pour la destitution, pour des raisons liées soit à la corruption, soit liées à un ressentiment même des classes envers le Parti des travailleurs. Mais dès qu'on regarde ceux qui sont dans la base de la pyramide sociale brésilienne, donc des 1 à 3 salaires minimum par personne, on voit qu'ils veulent que la présidente s'en va, pas nécessairement pour la destitution en tant que procédure juridique formelle, mais elle veut que le gouvernement s'en va à cause surtout de l'augmentation du chômage et de la précarisation de la vie. Qui, comme vous avez souligné aussi exactement, la crise est arrivée au Brésil et a poussé ces chômages et a poussé cette dégradation des conditions de vie.
On va y revenir, Glauber Cesarino. En cas de destitution, c'est donc le vice-président qui sera en charge d'assurer l'intérim, qui est Michel Temer, qui est le leader du parti centriste PMDB, qui était l'ancien allié du PT. Il a déjà tout préparé visiblement pour former un nouveau gouvernement. Il y a déjà des rumeurs. On nous dit qu'on a déjà à peu près le nom de celui qui sera le prochain ministre des Finances, Henrique Meirelles. On a peut-être aussi celui qui aura la charge du portefeuille de l'agriculture, Bleiro Maggi, qui est l'un des plus gros producteurs brésiliens de soja. Dans le cas où Dilma est destituée, honnêtement, on voit plus très bien maintenant comment ça pourrait être autrement. Vous n'êtes pas d'accord?
Oui, parce qu'en fait, il faut juste un point technique, parce que les votes du Sénat qui va se passer aujourd'hui, normalement, c'est pour écarter 6 mois. Exactement. Pendant que la procédure est jugée, donc elle n'est pas
destituée. Pour ouvrir un procès, en réalité.
Oui, exactement. Ouais. Donc, et même les sénateurs qui sont pour l'ouverture du procès ont déjà souligné que probablement, la destitution totale et complète, ils ne vont pas la voter.
Au cas où Dilma serait définitivement destituée à l'issue du procès, faisons cette hypothèse.
D'accord.
Est-ce que Temer la remplace jusqu'à la fin de son mandat? Normalement, la Constitution prévoit ça, mais est-ce qu'il pourra le faire? Parce que lui non plus n'est pas très 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 populaire. Est-ce qu'il ne sera pas obligé finalement de convoquer de nouvelles élections?
Ça, c'est une supposition que même le Parti des Travailleurs est en train de souligner là, en ces moments. Je pense qu'il n'a pas, d'un côté, pas de popularité populaire, pas de soutien populaire pour son gouvernement. Et en plus, sa base d'appui au sein du Parlement et au sein du champ politique brésilien est assez éclatée. Donc, je vois vraiment vaste problématique pour lui de mener un gouvernement jusqu'à sa fin. Cependant, les procédures de nouvelles élections, c'est juridiquement parlant, c'est assez compliqué de l'instaurer, parce qu'on présuppose un amendement constitutionnel, donc il faut 2/3 de la chambre du Parlement pour approuver cet amendement constitutionnel, pour prévoir nouvelles élections. Donc là aussi, j'ai du mal à voir cette possibilité. Ce que je vois, c'est une continuation d'un gouvernement Temer, assez instable, les rues remplies par des conflits entre des secteurs de la population, et une instabilité accrue pendant ces 2 années qui restent.
Vous parliez de corruption. Lors de son premier mandat, Dilma Rousseff a connu des pics de popularité absolument incroyables. Elle avait même été pendant un moment encore plus populaire que son prédécesseur Lula. Aujourd'hui, elle inspire une défiance généralisée absolument sans précédent. Les récents sondages, je le disais, montraient que 70% des Brésiliens, peut-être même plus, souhaitent qu'elle quitte le pouvoir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que justement ce sont les affaires de corruption? Est-ce que ça suffit finalement à expliquer cette crise de popularité?
Non, moi je suis convaincu que les affaires de corruption, réelles qu'elles soient, n'expliquaient pas par lui-même toute cette chute des popularités de la présidence. En fait, pour la plupart de la population, ce qu'on a senti, c'est que tous les miracles brésiliens des années 2000, la première décennie des années 2000, est tombé à l'eau avec la crise internationale qui a enfin touché le Brésil à partir des années 2010. Parce que il faut revenir un peu, je pense, le gouvernement Lula arrive au pouvoir, arrive à la tête de l'État brésilien, et lui, il est en train d'établir en quelque sorte un projet modernisateur basé sur un nouveau pacte social.
Nouveau pacte social, oui.
Exactement, c'est même ces mots qu'il employait à l'époque. Et ce nouveau pacte social, il était basé sur, d'une part, des élites économiques qui pouvaient garantir en quelque sorte la force et l'équilibre de l'économie brésilienne par la vente des matières premières dans les marchés internationaux. Et à partir de ces entrées de capitaux et ces contrôles monétaires et fiscaux, le Brésil pourrait inscrire toute une partie de la population dans ces marchés de consommation et dans les marchés de travail.
Donc ce que vous dites, c'est que c'est la crise économique qui a produit la crise politique. Parce que c'est vrai que l'économie brésilienne va très très mal. L'année dernière, il faut s'en souvenir, le gouvernement a voté un budget en baisse. Il a pris le tournant de la rigueur. C'était la première fois depuis une quinzaine d'années. L'austérité, évidemment, frappe l'ensemble du pays. Les programmes sociaux, bien sûr, et c'est peut-être l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles l'ancien électorat du PT est en train de se retourner. Mais on le voit aussi dans les financements des infrastructures. Tout le monde est touché, bien sûr. On a parlé du chômage. Il a beaucoup augmenté. Il est passé de 4,5% à quasiment 10%, pas tout à fait, mais en un an. Donc c'est la crise économique qui a produit cette crise politique.
Les liens sont pas de causalité et effet direct comme ça, mais je pense que ce qui est à la base, en quelque sorte, parce qu'il y a une crise politique qui est un peu indépendante de la scène de la rue, parce que sont les champs politiques ont une certaine autonomie par lui-même, et du coup, il y a des conflits au sein de ces champs politiques qui a poussé la crise politique. Cependant, sans un cadre de crise économique accrue, ces conflits au sein du champ politique n'auraient pas la place de voir cette ampleur, en fait. Donc, je pense pas qu'il faut parler de causalité directe, mais sans la crise économique, ça c'est sûr et certain, cet état d'instabilité serait pas là. On serait pas en train de vivre cette instabilité.
Avec l'arrivée du PT au début des années 2000, donc avec Lula, on a des millions de personnes qui s'extirpent de la pauvreté. On parle de 20 à 30 millions de personnes qui sont entrées dans cette fameuse classe C. Sauf que donc en 2013, quand les premières contestations sociales commencent, c'est précisément cette catégorie qui va se retrouver en première ligne. Alors bien sûr, certains ont continué à soutenir le PT, mais il y en a quand même beaucoup qui s'en sont détournés et qui ont pointé du doigt les responsabilités politiques du PT. Très concrètement, qu'est-ce qu'ils reprochent au PT ?
Bon, première vague de manifestations en 2013, donc en juin 2013, c'est qu'on a vu dans les rues brésiliennes, c'était quoi ? C'était des secteurs populaires, jeunes, des jeunes travailleurs populaires, précarisés, parce qu'ils étaient en contrat de sorte de CDD, avec de revenus mensuels en SMIC et demi. C'était la base de cette pyramide sociale. Et ces gens-là qui ont été touchés par la politique d'insertion au marché du travail. Parmi les 10 millions d'emplois créés pendant le gouvernement Lula, donc ce qui a fait sortir le Brésil du cadre de stagnation économique des années 90, donc 10 millions d'emplois créés dans une décennie, 9 millions, donc 90% en gros, sont des emplois à très bas revenus, et donc avec une circularité assez élevée. Donc la moyenne de périodes qui en restent dans un emploi, c'est 18 mois. Donc il y a une circularité énorme de cette main-d'œuvre qui, d'ailleurs, a pu entrer dans le système universitaire d'éducation, donc l'enseignement supérieur, qui donc avait tous ses espoirs dans cette, comment on va dire, ascension sociale via enseignement supérieur et via ouverture d'emploi, qui, à la sortie donc de l'enseignement supérieur, a vu qu'il n'y avait pas d'emploi qualifié. En fait, tous les booms économiques brésiliens, les booms du marché du travail brésilien, étaient un boom de travail non qualifié. Donc c'est là, je pense que c'est là que peut expliquer la réproche de ces secteurs.
Donc si je vous entends bien, en gros, Glober Cesarino, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des personnes qui sont sorties de la pauvreté, qui ont eu accès à de nouvelles richesses, qui ont pu acheter, je ne sais pas, une télévision, une voiture, un frigidaire, que sais-je encore, qui ont donc accédé à ce grand marché de la consommation. Et puis ensuite, on a de nouvelles aspirations auxquelles l'État finalement ne peut pas répondre. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, on a eu un processus de droitisation de cet électorat?
Moi, je dirais pas, parce que à la suite de 2013, on a vu la naissance de plusieurs mouvements sociaux qui sont pas alignés au Parti des travailleurs, mais qui avaient des mots d'ordre assez classiques des gauches, en quelque sorte. Hein. C'est les droits aux travailleurs, augmentation des droits donc aux couches populaires, droit à la ville, droit aux services publics de qualité. Et donc, moi, je vois pas une droitisation de ces secteurs. Ce que je vois, c'est que c'est vrai, c'est la deuxième vague de manifestation de juin, c'est que les anciennes couches moyennes aisées, parce qu'au Brésil, donc on parle plutôt de tout le monde a en gros couche moyenne au Brésil, classe moyenne au Brésil.
Je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'il y a en gros, ça va de la classe A à la classe E. Hein, non, c'est oui. Comme ça que font les...
Exactement. Donc la classe A et B qui regroupent très peu de la population, donc la classe haute. Et là, parce que même les B et les A, ils sont aussi découpés en deux. Donc A+, A-, B+, B-. D'accord. Donc à partir du B-, on parle déjà des classes moyennes. Donc des secteurs, moi je préfère qualifier comme les anciennes couches moyennes brésiliennes, donc qui ont été créées déjà pendant les années 60, 70. Et donc ces couches moyennes-là se distinguaient socialement du reste de la population brésilienne par le pouvoir d'achat, par le pouvoir de consommation, qui a descendu, qui a réduit pendant les années Lula via l'insertion de couches populaires, via la consommation. Et là, ça a généré un ressentiment des classes tellement grand, en fait, qui est sorti dans les rues dans la deuxième...
Recentrement ou droitisation? Parce que ce que vous dites, vous, c'est que bon, on a une partie de cette base historique du PT, cette fameuse classe moyenne qui se met à critiquer Dilma, qui se détourne du PT, qui va porter un discours peut-être plus conservateur, et voire carrément, et là je vous cite, carrément proto-fasciste.
Oui.
C'est vous qui le dites, ça?
Oui, c'est ces anciennes couches moyennes. Donc, parce que les problèmes des catégories comme couches moyennes, c'est qu'elles regroupent dans son sein une morphologie complètement vaste. Donc, d'un côté, on parle des jeunes précaires, qui ont accédé au marché de travail, au marché de consommation, qu'on appelle au Brésil les nouvelles classes moyennes, même le gouvernement l'appelle, les structures de sondage l'appellent comme ça, et on a cette ancienne classe moyenne, déjà sur place, avec des revenus beaucoup plus élevés, avec une scolarisation beaucoup plus importante, l'accès à des services privés de santé et d'éducation beaucoup plus importante, qui n'a jamais été de gauche, en fait, n'a jamais été pour le Parti des travailleurs, était toujours plus proche des partis de la dite social-démocratie brésilienne, qui est un parti de centre-droite, voire droite même. Eux, ils sont plus proches de ce type de groupement politique. Eux sont complètement anti-parti des travailleurs et ils ont profité donc de la faiblesse du gouvernement face à son électorat à lui, donc ces couches populaires qui sont vues un peu perdre les espoirs d'ascension. Ils ont profité de ces moments pour sortir dans la rue et se regrouper des forces. Donc je vois pas une droitisation plus grande, je vois une polarisation qui voit les jours à ce moment-là.
Quand on regarde un peu le profil moyen des manifestants anti-Dilma, c'est ce que nous disent les sociologues brésiliens, on a affaire à des gens qui sont plutôt, voilà, un peu plus de 40 ans, qui ont suivi des études, qui ont un revenu plutôt supérieur d'ailleurs au revenu minimum légal. Quelle différence sociologique justement avec les manifestants qui ont continué eux à soutenir Dilma?
Bon, ces dernières manifestations, on parle donc de 2015-2016. Ouais. Donc vous avez bien cité les manifestants contre Dilma pour la destitution ont ces caractéristiques sociales là que vous venez de souligner. Dès qu'on regarde les participants de manifestations pour Dilma, on voit que les revenus ils baissent un peu mais pas vraiment beaucoup par rapport à ces autres manifestants. On a une présence de Noirs et de Métis beaucoup plus importante que beaucoup plus importante que dans les manifestations contre Dilma. Et mais moi, un élément pour moi qui est central pour comprendre la différence, c'est que parmi ces manifestants pour le gouvernement Dilma, contre les procédures de destitution, on voit un nombre assez important de fonctionnaires publics, de syndicalisés et de gens participant à des anciens mouvements sociaux créés à la fin des années 70 et 80, comme les mouvements de travailleurs sans terre.
Est-ce que c'est des personnes qui, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avaient déjà le sentiment d'appartenir à une classe commune, d'une certaine manière, ou est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, que c'est précisément cette colère sociale, ces différentes manifestations qui ont fait naître, qui ont fait émerger une nouvelle conscience de classe ?
Pas dans ces populations. Mm-hmm. Je pense qu'une nouvelle conscience de classe est en train de naître, ça je suis même convaincu, mais je parle tout de suite. Mm-hmm. D'abord, ces gens-là qui participent aujourd'hui dans les manifestations pour le gouvernement sont des gens qui étaient avant... la base électorale et politique du Parti des Travailleurs. Avant, j'ai dit, avant l'arrivée de Lula au pouvoir. Parce qu'un grand changement qu'il y a eu, le Parti des Travailleurs a vécu un changement majeur, c'est que la première élection de Lula, il comptait sur ses militants de gauche, sur ses syndicalistes, ses participants de mouvements sociaux. Le deuxième mandat de Lula, il y a un changement des bases électorales. Ça, c'est décrit par les scientifiques politiques brésiliens, les politistes brésiliens, André Singer, qui était aussi en participant actif du gouvernement Lula. Il parle de lulisme en ce moment parce que les PT changent de base électorale. De ces couches plutôt moyennes, plutôt fonctionnaires publics, syndicalisés, il passe à la base de la pyramide sociale brésilienne. Donc c'est cet électorat qui a réélu Lula avec des taux d'approbation énormes parce que, justement, était favorable à la politique menée.
Et est-ce que cet électorat pourrait suffire, justement, à maintenir le PT au pouvoir dans les années qui viennent ? Alors évidemment, on a dit, il y a beaucoup d'incertitudes, peut-être de nouvelles élections, on verra, ou peut-être émerge jusqu'en 2018, mais quid, finalement, de la force de cet électorat-là ? Est-ce que c'est la fin du PT, tout simplement ? Parce qu'il n'a plus l'électorat qu'il faut. La base est trop petite.
Écoutez, c'est la fin du PT des années 2000, oui. Cependant, ça peut, même les gens du propre Parti des Travailleurs disent que c'est un moment de possibilité pour nous. Parce qu'on revient à des modes d'action d'avant l'arrivée de Lula au pouvoir, d'avant les négociations au sein du Parlement, d'avant la quête des voix. Donc on revient aux mouvements sociaux, on revient à la base, on revient aux rues. Donc je pense que c'est à double tranchant cette situation pour les propres partis de travailleurs.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur les nouvelles batailles identitaires et on parle de lutte des classes aujourd'hui, d'identité sociale avec Glober Cesarino qui est sociologue, qui est docteur à l'EHSS du Brésil à la Tunisie. Reste à ta classe, c'est le titre qu'on a choisi ce matin. Avant d'évoquer tout à l'heure la Tunisie, on va faire un détour du côté des Philippines parce qu'il y a quelques jours, les Philippines sont dotées d'un nouveau président, Rodrigo Duterte, après une campagne rugueuse, un peu outrancière. Il a remporté donc avec 38% des voix, ce qui était suffisant puisqu'il est arrivé premier d'un scrutin à un seul tour.
This country, this the law, the obedience to the law is almost optional.
Dans ce pays, la loi, l'obéissance à la loi est presque optionnelle. Les personnes les plus aisées, les trafiquants que je tuerais, les très riches, même s'il y a des riches honnêtes, on salit tellement de choses qu'ils ont créé des pertes qui se comptent en millions. Ils ne paient pas d'impôts, font du trafic, ainsi que toutes sortes de corruption et de transactions économiques. On ne peut pas acheter un équipement sans payer une commission. Presque tout ce qui a été conçu par la Cour suprême est teinté de corruption. Ma gouvernance est juste, car basée sur ce que je vois, compatible avec le système. Elle est juste tout le temps. Et pour ce qui est des droits de l'homme, des accusations, pourquoi devrais-je fournir des preuves contre moi-même ? Je suis là pour servir le peuple.
Servir le peuple, une gouvernance juste, voilà ce que promet Duterte. Duterte qui n'est pas un homme qui s'embarrasse de la question des droits de l'homme. D'ailleurs, on l'avait vu à travers les politiques qu'il avait menées contre la criminalité. Il faut se souvenir qu'il avait laissé opérer, voire peut-être même inciter des escadrons circulant à moto qui abattaient des personnes suspectées de crimes divers et variés. D'ailleurs, il l'a confirmé durant la campagne tout en mettant au défi de trouver des preuves. D'ailleurs, cette promesse de ramener l'ordre finalement avec ce genre de méthode sans se préoccuper du respect du droit a probablement été l'une des clés de son succès. On va retrouver un nouvel invité depuis Dubaï, c'est William Guérèche, bonjour.
Bonjour.
William Guérez, qui connaît très bien, bien sûr, les Philippines. Vous êtes historien et sociologue, vous êtes professeur associé à l'université de Dubaï. Alors, beaucoup avaient mis en garde quand même contre cet homme. Le président sortant, notamment Benigno Aquino, avait même dit que son arrivée au pouvoir signerait le retour de la terreur. Faut rappeler que le pays a vécu quand même dans une dictature pendant près de 30 ans, hein, de 65 à 86, avec Ferdinand Marcos, dont le fils était d'ailleurs en course pour la vice-présidence. Que vous inspire cette victoire, William Guérez? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'état actuel du pays, sur les attentes des Philippins? Et puis, est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie Philippines?
Cette victoire est à la convergence de données à la fois structurelles et conjoncturelles. La donnée sur le long terme, c'est le populisme aux Philippines depuis la période coloniale. Donc le recours à un homme fort, ça a toujours été le cas depuis Quezon, le premier président des Philippines en 1935, jusqu'à aujourd'hui. Et la donnée plus conjoncturelle, c'est peut-être une certaine lassitude des classes moyennes, effectivement, qui jouent un rôle important ici, puisque les hommes et les femmes politiques ne cessent de décevoir pour des Philippins qui ne voient pas leur ordinaire amélioré. Par conséquent, c'est une sorte de façon de s'en remettre à un sauveur et dans le cas présent, donc un populiste de cette engeance.
Mais pourtant, ils doivent beaucoup quand même. Oui, ils doivent beaucoup aux anciens responsables politiques, William Guérez. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup souligné ces dernières années le succès économique des Philippines. Regardons par exemple 2013, taux de croissance plus de 7%. Donc le décollage de l'économie, il a permis justement l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, plus éduquée, urbaine par ailleurs, anglophone souvent, mieux rémunérée. Pourquoi ce succès économique n'a pas été favorable aux candidats soutenus par le président sortant?
C'est exact, mais en fait, il faut toujours savoir à qui profite la croissance. En fait, c'est un peu comme la Chine. Si on n'a pas plus de 10% de croissance, cette croissance n'est pas partagée. Ce sont plutôt les élites qui en profitent. Et à la base de la pyramide sociale, ce sont les pauvres. Donc ceux qui sortent de la pauvreté, de la très grande pauvreté, pour entrer justement dans ces classes moyennes un peu fragilisées. Donc c'est peut-être une des explications de ce vote, à savoir qu'il existe parmi ces classes moyennes inférieures une peur tangible pour certains de la montée de la criminalité, puisqu'avec la pauvreté, la très grande pauvreté, il y a eu en parallèle une montée assez fulgurante de la criminalité. Vécu réel ou perçu comme tel, mais en tout état de cause, je pense que effectivement pour ceux qui se sentent menacés dans leurs acquis, ce recours à Duterte était quelque chose qui était inévitable. Donc je pense que c'est effectivement une des clés du succès du nouveau président.
William Guérez, je vais formuler la même hypothèse que tout à l'heure à propos du Brésil avec Glauber Cesarino. Est-ce que d'une certaine manière, en s'enrichissant, les classes moyennes ont doucement glissé vers plus de conservatisme?
C'est évident, on peut le retrouver partout, d'autant que les Philippins sont très attachés à la réussite sociale et à l'ostentation, c'est-à-dire que oui, ils ont quelque chose à préserver maintenant, à savoir un frigo, des biens matériels. Peut-être qu'une bonne définition des classes moyennes serait ceux, par exemple, qui sont capables d'avoir une voiture. Donc ceux-là peuvent se sentir effectivement menacés, peut-être aussi, pas forcément...
Et ceux-là ont voté pour Duterte?
Je pense, oui. Ouais. Et la criminalité, la montée de la criminalité est certainement une des clés majeures. Ouais. Et puis, la déconsidération de la classe politique, mais ça, c'est aussi très structurel. Ouais. Donc, quand on voit les candidats qui se présentent, la plupart sont issus des grandes familles. Enfin, à part, justement, Duterte qui fait, d'une certaine manière, office d'homme nouveau dans cette lutte, les autres viennent des grandes familles et sont effectivement des considérés, même le candidat qui était soutenu par Aquino.
Vous restez avec nous, William Guérez. Je voudrais faire réagir Glauber Cesarino. Alors évidemment, vous n'êtes pas un spécialiste des Philippines, mais on voit peut-être des points de convergence entre les Philippines et le Brésil, pour le coup.
Oui, exactement. Cette montée en puissance via la consommation de certains secteurs de la société, c'est un peu ce qu'on a vu au Brésil. Cependant, dans un cadre beaucoup plus élargi, j'imagine, parce qu'on parlait vraiment d'une croissance massive d'accès à la consommation au Brésil. Je ne sais pas exactement ce qu'est le cas des Philippines par rapport à cela. Cependant, je pense que peut-être la différence, c'est que quand on regarde, par exemple, même les dernières élections de Dilma Rousseff, on a vu que c'est justement ceux qui sont en bas de la pyramide sociale qui ont voté pour elle. Quand on décortique les votes par les régions touchées par des programmes sociaux et par des allocations versées aux plus démunis, on voit que les taux d'approbation de la présidence aux élections, donc les voix, exprimés sont plus importants dans ces régions qu'ailleurs.
Il n'empêche que cet électorat-là s'est étiolé au fur et à mesure. On se souvient du début de la campagne au Brésil, Dilma Rousseff était à des niveaux très très importants. D'ailleurs, on imaginait tous que c'était joué d'avance. Or, quand on regarde les résultats à la fin du second tour, parce qu'à un moment, on se disait, il n'y aura même pas de second tour. Il y a quand même eu un second tour avec Aécio Neves, et elle ne l'a emporté qu'avec un tout petit peu plus, je crois, de 52, ou un peu moins même, de 52% des voix. Elle n'a fait que tomber durant la campagne. Donc on voit que la dynamique était déjà très mauvaise.
Ah oui. Absolument, absolument. Mais il ne faut pas négliger cette... par exemple, des explications de cette instabilité, de cette poussée vers une procédure des coups et la tentative de mettre en prison Lula, c'est en voyant les possibilités de 2018 que Lula s'y présente. Si Lula s'y présente aujourd'hui, il gagne les élections.
William Guéresch, on parle cette semaine d'identité, et aujourd'hui en particulier d'identité sociale. Est-ce que vous diriez qu'il existe aux Philippines une identité de classe? Est-ce que la catégorie sociale à laquelle on appartient est importante quand on construit sa propre identité? Ou est-ce que finalement c'est assez marginal par rapport à d'autres éléments, à, je ne sais pas, à l'origine géographique, ethnique, religieuse?
C'est une donnée, c'est effectivement une donnée importante. C'est l'héritage de la colonisation. Là aussi, on est sur le long terme. On est ça c'est très important à prendre en compte. Donc on ne change que très peu ou à la marge on évolue très peu dans son milieu social ou dans sa classe sociale. Par conséquent, la rigidité de classe est importante aux Philippines. Cette donnée a été contredite par deux évolutions. La première, c'est le phénomène national. Donc il y a et l'identité régionale, les deux se combinent aussi. Et la deuxième, ce sont les Philippins de la diaspora, donc qui eux remettent en question de facto cette identité de classe, puisque à l'étranger, la communauté transnationale, la diaspora philippine, a tendance à se regrouper en tant que Philippin, et les barrières de classe sont beaucoup moins importantes. Donc ce qui se passe à l'étranger a inévitablement une influence sur l'archipel.
Merci beaucoup, William Guéresch, d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Dubaï. Je rappelle que vous êtes historien et sociologue et professeur associé à l'Université de Dubaï. Un grand merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur le Brésil, Glober Cesarino, avant d'aller du côté de la Tunisie. À la faveur de l'enrichissement de la population brésilienne, on a vu se développer la pratique du recours aux employés de maison, ce qu'on appelle les empregadas domesticas, qui s'est beaucoup répandu, des femmes de ménage, des jardiniers, des gouvernantes, des cuisinières qui ont été embauchées dans des familles de la petite et la grande bourgeoisie. Ces femmes d'ailleurs qu'on retrouvait dans un ouvrage de Dominique Vidal dont on avait parlé ici à ce micro, Les Bonnes de Rio. C'est par exemple le thème d'un film qui est sorti je crois l'année dernière, Une seconde mère, petit extrait, tiens.
Pode tirar, por favor.
Jéssica tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo.
Mentira. Tem quanto tempo que vocês não se veem?
Tá mais de 10 anos.
Qual?
Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso?
É.
Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né?
E aquela porta ali?
Ali é o quarto de hóspedes.
Voilà, donc une seconde mère, la vie d'une servante de famille aisée, bouleversée par l'irruption de sa propre fille, hein, parce que depuis plus de 10 ans, Val, c'est le nom de cette femme de ménage, de cette gouvernante qui travaille comme domestique donc au sein d'une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, qui est le fils de ses employeurs, alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille, qui est restée, elle, dans le Nord-Esté, hein, sa région d'origine. Jessica, c'est une bonne élève, et donc elle va intégrer l'université, et donc mère et fille se retrouvent à Sao Paulo, mais il y a un fossé qui s'est irrémédiablement creusé entre elles. Vous l'avez vu, hein, ce film, je crois, oui. Glober Cesarino, hein, ça représente bien, hein, finalement, les bouleversements de ce Brésil-là, et du coup, les tensions qu'on voit aujourd'hui.
Ah, exactement. Ce qui a mis en, en filigrane même dans les films, c'est ces conflits entre l'ancienne mode d'action, on va dire, des classes sociales brésiliennes et un bouleversement de comment on va se faire ces contacts entre les classes sociales brésiliennes.
Et alors je vous parle de ça, Gilbert Cesarino, parce que pendant longtemps, ces personnes-là ont été largement privées de droits. D'ailleurs, beaucoup avaient des conditions de travail si difficiles que lorsqu'ils quittaient leur région d'origine, ils n'avaient souvent jamais l'occasion d'y retourner. Donc, coupant les liens avec les racines, la famille, les enfants, c'est exactement ce qu'on voit dans ce film, Une seconde mère. Mais voilà que depuis le 1er octobre 2015... il y a quelques mois, les employés de maison ont obtenu des droits sociaux. C'est une avancée que le sociologue brésilien Ricardo Antunes compare aux luttes pour les droits des ouvriers britanniques du XVIIIe siècle. Cette évolution, c'est une véritable révolution en réalité pour ce qui était jusqu'ici quasiment des citoyens de seconde zone.
Ah oui, absolument. Je pense que ça va ajouter la haine de ces secteurs plus aisés. Parce que justement, on sort d'une mode d'action à la 19e brésilien où les bonnes sont presque comparables des esclaves de maison. Parce qu'ils travaillaient toute la journée, ils restaient juste là pour, par exemple, si je voulais un jus à 1h du matin, j'appelais ma bonne pour me la faire. Moi, j'ai jamais eu de bonne, mais c'est comme ça que ça se passait un peu au Brésil. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment qu'on va instaurer des droits de travail, on peut plus en faire, en fait.
Mais pourquoi est-ce que les domestiques ont dû attendre aussi longtemps alors que les ouvriers, eux, ont vu leurs droits s'améliorer dès les premiers mois du premier mandat de Lula?
Je pense qu'il y a d'abord le côté domestique, ça joue énormément, parce que la société brésilienne, elle se structure un peu dans ces clivages assez importants entre règles domestiques et règles publiques de la rue. Donc, je pense que ça joue énormément. Du coup, après, deuxième élément, je pense que c'est pas négligeable, c'est la population qui s'est touchée par ça. Ce sont des femmes, souvent noires, souvent métisses. Donc, les citoyens, on va dire, sont plus en bas dans l'hiérarchie sociale brésilienne.
D'accord. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce rapport d'assujettissement, il a persisté longtemps et il persiste encore aujourd'hui au Brésil. C'est parce qu'il y a ce passé esclavagiste.
Ah oui, absolument. 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 Le Brésil, c'est un des derniers pays du monde à finir avec l'esclavage. Et même la fin de l'esclavage était faite d'une telle façon que les populations récemment libérées ont resté à côté des grandes villes, en subissant, en fait, toute forme de discrimination et tout cela. Et aujourd'hui, on est en train de remettre la question là-dessus. Donc, je pense que c'est très important, par exemple.
Vous y voyez une rupture, cette avancée sur justement ces domestiques?
Je commence à voir, je pense qu'il y a une chose qui se passe en ce moment au Brésil depuis les années 2010, mais qui s'est approfondie en 2013 et aujourd'hui, c'est que ces populations noires, métisses, banlieusardes, touchées par la violence policière, touchées par l'emploi précaire, touchées par des formes d'assujettissement dont on a parlé par exemple comme les bonnes au Brésil, commencent à voir en sorte de fierté de leurs conditions humaines et commencent aussi à s'engager à des luttes directes contre ces formes d'assujettissement et ces formes de précarité.
Gilbert Cesarino, on vient d'apprendre à l'instant que l'ouverture du procès en destitution d'Dilma Rousseff a été approuvée. 55 sénateurs contre 22. Une réaction?
Je suis pas surpris. Je suis absolument pas surpris. C'était un peu attendu. Cependant, ça va pousser le Brésil en instabilité énorme.
55 contre 22, vous vous rendez compte?
Oui.
On n'attendait pas?
Pas si grand. Ouais. Parce que ça fait... Ouais. Avec cette votation, par exemple, elle serait de située d'ici à 6 mois.
L'opposition était ferme, vive contre Dilma Rousseff. Hein?
Absolument.
On va parler à présent de la Tunisie. On se souvient qu'on parlait de révolution sur le Brésil. Hein? La révolution tunisienne, elle avait explosé, évidemment, sur le terreau de profondes inégalités sociales. Avant même le mouvement qui conduira à la chute du régime, le pays avait traversé, on s'en souvient, une grave crise sociale quelques mois auparavant. C'était en 2008, avec cette forte colère sociale qui s'était emparée du bassin minier de Gafsa, une région fortement touchée par le chômage et la misère. Le régime avait répondu par une forte riposte policière, avec des morts, avec des arrestations, avec des tortures. C'était le point de départ, finalement, de la révolution tunisienne, qui s'était cristallisée ensuite autour de la mort de Mohamed Bouazizi. On s'en souvient, 5 ans après la révolution, le pays est parvenu à se doter d'institutions démocratiquement élues. C'est la grande réussite de ces révolutions arabes, quasiment un modèle. En revanche, sur le plan des avancées sociales, les choses sont encore difficiles et d'ailleurs le climat social s'est beaucoup dégradé ces derniers mois.
Ça fait 5 ans qu'on se bat. On ne demande pas grand-chose. On se bat pour nos jeunes.
Que le gouvernement nous donne du boulot. En 5 ans, rien n'a changé. Tout ce qu'on veut, c'est des emplois.
Tu imagines, je suis au chômage depuis 2008. Ça veut dire que tu as zéro revenu. Ici, en Tunisie, il n'y a pas d'allocation chômage. On a tout essayé. On a travaillé comme serveur, comme pêcheur. On a fait des petits boulots agricoles. N'importe quoi, pourvu qu'on fasse quelque chose. Là, j'ai 31 ans et je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. Mon avenir est sombre. Regarde autour de toi. Ici, on n'a que la mer et les entreprises gazières et pétrolières. C'est tout.
Je pense que c'était la plus grosse manif qu'ait jamais connue l'île. 90% des fonctionnaires y ont participé. Les directeurs d'école, des employés de la ville et de l'hôpital. L'État contrôle qui exactement? Les fonctionnaires eux-mêmes sont contre le gouvernement.
Voilà, un climat social tendu ces derniers mois. Il y a quelques jours, on a eu une manifestation contre le chômage qui a dégénéré en émeute dans les îles Kerkana. Il y a eu des affrontements violents avec la police depuis le début de l'année. On a plusieurs villes du centre et du sud qui ont connu des mouvements similaires. Bonjour Bakar Gherib.
Bonjour,
merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis Djendouba, vous êtes historien de la pensée économique et politique, vous êtes un ancien syndicaliste et vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques de Djendouba. On est à peu près à 150 kilomètres de Tunis. On sent que le climat social est en train de dégénérer. Hein. Quelle menace concrètement? Est-ce qu'on peut imaginer une cristallisation d'un mouvement global, national, qui ferait tomber l'actuel régime?
Bon, votre question est un peu trop directe. Ce qui est sûr, et comme l'a montré un peu le reportage que vous avez, les citoyens qui ont parlé tout à l'heure, c'est que la question sociale n'a pas du tout avancé par rapport à la révolution depuis 5 ans, et que au contraire, ça s'est aggravé. Il y a plusieurs raisons pour ça. Moi, je pense que vous l'avez bien dit, au début, c'était le mouvement social dans les villes du centre-ouest de la Tunisie qui a déclenché la révolution. Et les slogans scandés, les revendications des révolutionnaires du mouvement social, l'identité des acteurs était vraiment sur la question sociale et pas sur d'autres problématiques. Donc vous vous rappelez très bien, le travail est un droit, bande de voleurs, c'était le slogan de la révolution tunisienne. Donc, on se pose la question pourquoi la question principale à l'origine de la révolution a été éclipsée aussi facilement après. Bon, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la conduite du mouvement social dans les villes du centre-ouest a été menée par des élites régionales. Mais je pense que ces élites régionales n'ont pas eu le rayonnement national pour continuer à porter des revendications donc au niveau national. Je pense également que la question identitaire qui s'est tout de suite greffée sur le paysage politique a contribué à éclipser la question sociale. Donc quand on a fait rédiger la constitution, on s'est occupé des problèmes du lien entre le religieux et le politique, l'État et la religion, etc. Et ça a mis au second plan la question sociale.
Mais alors justement, sociale, parce que quand même, Bakar Gherib, régulièrement, on entend les politiques tunisiens nous expliquer qu'ils sont les défenseurs des fameuses classes moyennes dont on parlait. Les études s'enchaînent pour nous dire que la classe moyenne tunisienne est en danger, qu'elle est en train de péricliter. On nous disait par exemple en décembre dernier qu'elle représentait 80% des Tunisiens il y a quelques années et qu'elle ne représente plus que 67%. Ce sont des chiffres que je tiens de l'Institut National de la Consommation. C'est la classe moyenne qui se révolte aujourd'hui?
C'est difficile à dire. La classe moyenne souffre depuis 5 ans, c'est vrai. Mais je pense que ceux qui souffrent le plus sont les exclus et pas les inclus. C'est ça le grand paradoxe de la révolution. Donc il a été mené par les exclus du système, ceux qui n'avaient pas d'emploi. Et au bout, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui étaient déjà dans le système, qui sont défendus par des corporations, par des structures syndicales. Il est incontestable qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été arrachées par les fonctionnaires, par ceux qui étaient défendus par l'UGTT. Par contre, la question fondamentale, celle qui a été soulevée par les chômeurs, elle n'a pas été n'a pas été affrontée et n'a pas été résolue.
Alors justement, alors je précise pour les auditeurs, l'UGTT, c'est l'Union Générale Tunisienne du Travail qui avait été, on s'en souvient, absolument, et qui avait été l'un des acteurs du quartet du dialogue national, qui avait d'ailleurs obtenu le prix Nobel en 2015, on s'en souvient. Les exclus du système, en particulier les diplômés chômeurs, vous le disiez, parce que, bien sûr, l'une des grandes difficultés, c'est pour ces jeunes diplômés qui ne parviennent pas à trouver du travail et qui se sont rassemblés à l'intérieur de l'Union des diplômés chômeurs qui a été créée en 2006. Et d'ailleurs, cette UDC, elle a été régulièrement à l'origine de nombreux appels à la grève depuis le début de l'année. Est-ce que vous diriez que autour de cette catégorie en particulier est en train de se forger une conscience, une identité de classe ?
Bon, c'est pas aussi simple que ça, encore une fois. C'est vrai que c'est un phénomène nouveau. Et pour la Tunisie, c'est très important, parce que pour la Tunisie, l'État tunisien moderne post-colonisation, il a été fondé sur l'idéal méritocratique. C'est-à-dire que le diplôme, surtout universitaire, était la garantie d'une mobilité sociale ascendante pour toutes les couches sociales. Or, le phénomène qui est assez récent du chômage des diplômés du supérieur frappe au cœur cet idéal méritocratique et il chamboule même les valeurs des Tunisiens et surtout ceux de la classe moyenne, parce que quand dans les classes moyennes et les classes populaires c'est le frère qui n'a pas réussi ses études qui subvient qui maintient, disons, qui donne son argent de poche au frère qui a réussi ses études, c'est tout un chamboulement dans les valeurs des Tunisiens qui remet en cause 50 ans d'idéal méritocratique sur lequel tout le monde tout le monde était d'accord en fin de compte. C'était l'idéal qui nous soudait tous, y compris l'État et la société tunisienne. Donc pour ce qui est de l'Union des diplômés chômeurs, c'est un phénomène récent. Est-ce qu'il arrive à mobiliser tous les diplômés chômeurs qui se comptent par dizaines de milliers? Je ne le crois pas.
Et est-ce qu'il arrive à peser sur le jeu politique?
Comme vous l'avez dit, il déclenche des mouvements, il est à l'origine de manifestations, il rappelle à l'ordre du jour, c'est comme des piqûres de rappel qu'il fait à la classe politique, mais peser sur le jeu politique, je pense pas que ce soit encore le cas. Mais pour revenir à la question de la conscience de classe, c'est pas vraiment quelque chose d'évident, parce que ici aussi, on a une lourde tradition d'histoire politique et sociale en Tunisie qui a euphémisé la question des classes. On ne pense pas les classes sociales en Tunisie. Pourquoi ? Parce que le parti politique qui a dominé le pays depuis l'indépendance, il a un discours interclassiste. Et il parle au nom de tous les Tunisiens et il a tout fait pour éviter de penser tout ce qui est conflit social, tout ce qui est lutte des classes. Et également, la centrale syndicale, elle n'a pas été vraiment porteuse des revendications de la classe ouvrière. Elle a été, depuis le début, dominée par les fonctionnaires, ce qui a euphémisé également la question des classes et de la conscience des classes.
D'accord, donc
je dirais même pour les autres partis politiques, c'est-à-dire qui étaient dans l'opposition, ce discours interclassiste, il a dominé à tel point que même la gauche, même les partis de la gauche ne se positionnent pas comme porte-parole de la classe ouvrière ou des classes populaires. Ils essaient plutôt de parler au nom du peuple, ce qui est plus vague, ou bien d'une catégorie plus floue encore, qui est le Zawel, et on dit en dialecte tunisien, c'est-à-dire le pauvre, et ça c'est une catégorie très floue, est très élastique.
Donc,
il n'y a pas encore dans les partis politiques quelqu'un qui se positionne clairement comme porte-parole de classe sociale.
Ouais, les partis politiques ont cherché à échapper à cette question de la classe sociale, cette question des luttes sociales. Glober Cesarino, réaction.
C'est justement ce qu'on a vu, c'est l'erreur, de mon point de vue, c'est l'erreur du Parti des Travailleurs, c'est de chercher une unité nationale autour des mots, comme lui, monsieur vient de dire, le peuple, les pauvres, les pays, la nation. C'est ça qui n'a pas marché, parce que dans un pays avec des inégalités sociales historiques, séculaires, très divisées, très clivagées, parler de peuple, d'union nationale, il n'a pas de sens. C'est ça qui est en train de s'éclater, en fait. C'est ça qui est complètement en train de s'éclater.
C'est l'erreur originelle du PT qu'il est en train de payer.
Oui, de mon point de vue, absolument.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Bakar Guérib, d'avoir été avec nous en direct depuis Djendouba. Je rappelle que vous êtes historien de la pensée économique et politique, ancien syndicaliste, doyen de la faculté de sciences juridiques de Djendouba et auteur, pour nos auditeurs, de cet ouvrage « Pour une refondation de la gauche » qui était paru aux éditions d'Iwen. Merci beaucoup. دوري بين بلدان تكردي في السهومة حتى نوصل لمبدر جردي من الحومة قانون الغب البنية بكردي سليومة عملتك سحجر واللي فردي يمشومة بلاد تضوي على البراني قد ما فيك انت محلال قد ما جهدي معاك اعطاني نسف جزية في الزبلان كبش ملان تأسف مانيش مواطن طيبتن مش كدومان ترسف. Et un grand merci à vous, Glober Cesarino, d'avoir été avec nous ce matin en direct pour nous éclairer sur cette crise politique qui va se poursuivre, hein, puisqu'on vient d'apprendre durant cette émission que Dilma Rousseff donc était officiellement destituée pour 6 mois dans un premier temps. En tout cas, un procès va s'ouvrir. On va du coup suivre de près ce qu'il se passe du côté de ce Brésil. On va voir qui finalement tire son épingle du jeu. Est-ce que ça sera Temer? Est-ce que ça sera d'autres? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Peut-être celui qui avait perdu face à l'élection en 2014. C'était Aécio Neves. En tout cas, ça se présente mal parce qu'on apprenait quelques minutes avant que donc le chef de l'opposition, Aécio Neves, lui aussi, il est visé par une enquête. Donc, ça va être très très compliqué puisque un procès va s'ouvrir, donc il risque d'être un peu sur la touche pendant quelques mois aussi.
La ligne de succession en fait est touchée par des affaires. Hein. Le vice-président est touché par des affaires de corruption aussi, l'ancien président de chambre des députés aussi, le président du Sénat aussi, donc on a une longue ligne.
Bon, eh bien je crois que le Brésil va nous occuper ces prochains mois. Merci beaucoup en tout cas, Glober Cesarino, d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet, mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour sur France Culture, c'est La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.